Bonjour. J'aimerais exprimer mes sincères remerciements au docteur Prendiville et à ses collègues pour leur invitation en Irlande et leur hospitalité. Lors des 20 prochaines minutes, j'aimerais parler de l'avenir du dépistage des lésions précancéreuses du col de l'utérus dans les pays en voie de développement. Le dépistage du cancer du col de l'utérus en est encore à ses prémices dans les pays en voie de développement. Dans la plupart des pays, il n'existe aucun programme de dépistage. Dans quelques pays, il existe des programmes de dépistage nationaux ou régionaux. Dans la plupart sont inefficaces. Par exemple, dans de nombreux pays d'Amérique latine, comme le Brésil, l'Argentine, le Chili, le Pérou, la Bolivie, le Venezuela, le Panama, l'Équateur, le Mexique, le Costa Rica et Cuba, des programmes de dépistage du cancer du col de l'utérus ont été mis en place dès les années 60 ou 70. Et jusqu'à présent, la plupart de ces programmes ont un impact très faible sur le fardeau du cancer du col de l'utérus. En fait, au Costa Rica, au Chili et au Brésil, des efforts ont été récemment entrepris pour réorganiser ces programmes, ce qui a entraîné peu de temps après une baisse de la mortalité au Costa Rica et au Chili. Mais dans les pays à haut risque d'Afrique subsaharienne ou d'Asie, comme l'Inde par exemple, il n'existe pas de programmes de dépistage régionaux ou nationaux. Les possibilités d'organiser des programmes de dépistage sont donc considérables dans les pays en voie de développement. Il faut prôner une politique nationale, prendre des mesures concernant l'allocation des ressources et planifier un développement à long terme, par étapes, permettant de générer des ressources humaines, d'investir dans l'infrastructure, des soins de santé, le diagnostic, le traitement, le suivi et les systèmes d'information. En termes de couverture, nous pouvons dire que plus de 60% des plus de 30 ans ont été dépistés au moins une fois dans leur vie à Cuba, au Chili, au Costa Rica, à Hong Kong, à Singapour, en République de Corée, en Uruguay et à Taïwan. Au Chili, à Singapour, au Costa Rica, en République de Corée et à Taïwan, on remarque déjà une baisse notable du risque de cancer du col de l'utérus grâce à la réorganisation des programmes. Cela étant dit, investir dans un programme de dépistage par cytologie constitue un véritable défi en termes de ressources humaines et financières pour de nombreux pays en voie de développement. Il est également difficile d'assurer les contributions appropriées pour garantir les normes du programme, en particulier l'assurance qualité, et de faire revenir les femmes dont le dépistage est positif pour les diagnostiquer et les traiter. À cause des nombreuses difficultés d'organisation du dépistage du cancer du col de l'utérus par cytologie, on a évalué d'autres tests de dépistage. Il s'agit de méthodes s'appuyant sur des techniques rudimentaires, comme l'inspection visuelle après application d'une solution de 3 à 5% d'acide acétique ou de soluté de Lugol, et de l'inspection visuelle avec grossissement. La technique de pointe est le test d'ADN du VPH, utilisé comme principale méthode de dépistage. Je le répète, l'un des principes de base de cette évaluation est d'utiliser un test très sensible, car dans les pays en voie de développement, on ne peut pas dépister les femmes très fréquemment. Ces dernières années, il y a eu beaucoup d'études transversales dans les pays en voie de développement, en Asie, en Afrique et en Amérique latine, pour évaluer la précision de différentes méthodes de dépistage visant à détecter les lésions précancéreuses de haut grade du col de l'utérus, comme la cytologie conventionnelle, le test d'ADN du VPH, principalement effectué avec le test Hybrid Capture 2, et l'inspection visuelle après application d'acide acétique ou de soluté de Lugol. Bien sûr, dans ces études, la sensibilité de chaque test variait beaucoup, entre 30% et environ 90%. On a remarqué que le résultat variait selon les études, ce qui a donc créé une variabilité du diagnostic final de référence. Les prestataires étaient issus de formations très différentes, et dans de nombreux cas, c'était la première fois qu'ils menaient ce type d'études, donc le processus d'établissement du diagnostic final de référence, ainsi que la sensibilité des tests était très différente selon les études. La spécificité était aussi très variable, surtout celle de l'inspection visuelle, comprise entre 40% et 97%. Cependant, il est évident que l'inspection visuelle avait presque la même sensibilité que la cytologie, dans la plupart des études où elles étaient évaluées simultanément. Toutefois, les méthodes par inspection visuelle avaient une spécificité inférieure à la cytologie. Ces dernières années, on a proposé de nouveaux paradigmes concernant les programmes dans les pays en voie de développement. Le premier paradigme consiste à diminuer la fréquence du dépistage. Malgré une sensibilité modérée, la cytologie du col de l'utérus a permis de réduire le fardeau du cancer du col de l'utérus dans les pays développés. Cela s'explique par la fréquence très élevée du dépistage, effectuée tous les ans aux États-Unis ou en Allemagne, tous les 3 ans dans de nombreux pays et tous les 5 ans dans les autres pays. Cependant, dans de nombreux pays en voie de développement, une répétition fréquente du dépistage est impossible à cause du manque de ressources. On a donc cherché à savoir si un dépistage de faible fréquence était possible, c'est-à-dire un dépistage de qualité effectué une à deux fois au cours de la vie. Le second paradigme, en ce qui concerne les approches programmatiques, consiste à réduire le nombre de visites et à améliorer l'adhésion au traitement. Dans le cas d'un test de dépistage, quand les résultats ne sont disponibles qu'au bout d'une semaine, ce qui est le cas de la cytologie, il faut faire revenir la patiente pour le diagnostic et le traitement. Si un algorithme de dépistage nécessite plus d'une visite, il est fort possible que la patiente ne se rende pas à la deuxième visite. Des efforts ont donc été entrepris dans le but de n'avoir qu'une visite unique, regroupant le dépistage et le traitement, ou le dépistage, le diagnostic et le traitement. La méthode visite unique a donc été évaluée pour améliorer l'adhésion au traitement des femmes dont le dépistage est positif. Nous allons maintenant parler des trois essais randomisés effectués dans les pays en voie de développement et dans lesquels on a évalué dans quelle mesure les méthodes dont nous avons parlé précédemment peuvent permettre de réduire le fardeau des néoplasies cervicales. La première étude dont je vais parler est l'essai randomisé de prévention du cancer du col de l'utérus selon la méthode « dépister et traiter » effectuée dans la ville du Cap en Afrique du Sud. C'est la première étude qui montrait que grâce à une visite unique, on pouvait réduire la prévalence des lésions précancéreuses du col de l'utérus. Cette étude comprenait environ 6000 femmes dépistées par le test Hybrid Capture 2, servant à détecter l'ADN du VPH et par l'inspection visuelle après application d'acide acétique. Les femmes ont été randomisées en deux groupes de 2200 femmes chacun. Dans le premier groupe de 2200 femmes, on a pratiqué une cryothérapie chez les femmes dont le test d'ADN du VPH était positif, après avoir exclu les preuves cliniques d'un cancer invasif. Dans le deuxième groupe de 2200 femmes, des infirmières ont pratiqué une cryothérapie par double congélation chez les femmes dont l'inspection visuelle après application d'acide acétique était positive. Et dans le troisième groupe de 2200 femmes, celles-ci n'ont pas été traitées de manière immédiate, mais invitées à se présenter 6 mois plus tard. Donc l'évaluation a été reportée. En fait, on a rappelé les 6600 femmes après 6 mois, et elles ont toutes subi une colposcopie, et selon le résultat, des biopsies ont été dirigées. On a recensé le nombre de lésions précancéreuses du col de l'utérus, et en particulier les lésions CIN2, CIN3, et les cancers invasifs dans chaque groupe. Dans le premier groupe, traité par cryothérapie, à la suite d'un test Hybrid Capture 2 positif, il y avait 15 cas de lésions CIN2 ou de stade supérieur après 6 mois et 25 cas de lésions CIN2 ou de stade supérieur après 25 mois. Donc, la prévalence à 6 et à 12 mois des lésions CIN2 ou de stade supérieur dans ce groupe était de 0,8% et de 1,4% respectivement. Dans le deuxième groupe, traité par cryothérapie après une IVA positive, il y avait 43 cas de lésions CIN2 ou de stade supérieur à 6 mois, soit 2,2%, et 54 cas de lésions CIN2 ou de stade supérieur à 12 mois, soit presque 3%. Dans le troisième groupe, le groupe témoin, évalué 6 mois après la première visite, il y avait 64 cas de lésions CIN2 ou de stade supérieur à 6 mois et 93 cas à 12 mois. Cela montre donc qu'il y a eu une baisse de près de 80% de la prévalence de lésions CIN2 ou de stade supérieur dans le groupe traité par cryothérapie après un test VPH et en comparaison, une baisse de presque 38% de la prévalence des lésions précancéreuses du col de l'utérus dans le groupe traité par cryothérapie après une IVA positive. Cela indique que la sensibilité du test VPH permet de mieux identifier les lésions précancéreuses du col de l'utérus en cas de dépistage positif et que la cryothérapie est très efficace pour réduire la prévalence des lésions. L'IVA est un test peu coûteux et elle donne des résultats immédiats relativement satisfaisants, c'est-à-dire une baisse de la prévalence d'environ 39% en dépit d'une performance moindre par rapport au test HPV. Le deuxième essai randomisé dont je vais parler a eu lieu dans le sud de l'Inde et avait pour but d'évaluer l'efficacité du dépistage visuel pratiqué par des infirmières dans la réduction de l'incidence et de la mortalité du cancer du col de l'utérus. Il s'agit encore d'une étude très importante fournissant la preuve de l'utilité clinique du dépistage visuel. L'objectif de cette étude était de comparer la baisse de l'incidence et de la mortalité du cancer du col de l'utérus associée à un dépistage effectué en une fois par des infirmières à celle du groupe témoin n'ayant subi aucun test de dépistage et d'évaluer le rapport coût-efficacité du dépistage par IVA. Cette diapositive contient beaucoup d'informations. Elle montre le diagramme du plan de l'étude et les résultats. Il s'agissait d'un essai randomisé par groupe comprenant 80 000 femmes âgées de 30 à 59 ans, réparties dans 113 groupes, eux-mêmes randomisés en deux groupes. 57 groupes, soit 49 000 femmes, ont été dépistées en une seule fois par IVA, et les 56 groupes restants, soit 31 000 femmes, ont été prises en charge de manière conventionnelle. Cela signifie que ces femmes n'ont pas été dépistées, mais qu'on les a informées à propos du cancer du col de l'utérus, de la manière de le prévenir et de le détecter précocement. On a également incité ces femmes à s'adresser aux services médicaux en cas de besoin. Pour le dépistage par IVA, les femmes ont été invitées et 31 000 ont participé au dépistage, ce qui représente 66% des femmes invitées. 10% des femmes avaient un dépistage par IVA positif. Elles ont immédiatement subi une colposcopie, pratiquée dans les mêmes locaux par des infirmières qui ont ensuite dirigé une biopsie des zones anormales. Après la biopsie, les lésions d'une taille inférieure aux 3 quarts de la zone de remaniement ont été traitées par cryothérapie quand cela était possible. Les cas de lésions étendues ou atteignant le canal et de suspicion de cancer invasif ont été orientés vers des médecins spécialisés pour une évaluation plus approfondie. Les femmes chez lesquelles on a identifié des lésions précancéreuses ont été traitées par cryothérapie ou RAD, et celles qui présentaient un cancer invasif ont été traitées par chirurgie, rayonnement ou une combinaison de rayonnement et de chimiothérapie selon le stade de la maladie. Les deux groupes de femmes ont ensuite été suivis pendant 7 ans pour étudier l'incidence et la mortalité du cancer du col de l'utérus. Des efforts très importants ont été entrepris pour organiser un suivi actif consistant à enquêter auprès des femmes participant à l'étude et des membres de leur famille pour établir leur statut vital. Il a fallu relier ces données de suivi avec celles du registre de cancer de population et avec d'autres sources de données comme les systèmes de mortalité existants. On a donc entrepris des efforts considérables concernant le suivi actif et passif pour s'assurer que tous les cas de cancer et de décès dus au cancer étaient comptabilisés. Quels sont les résultats ? L'étude a débuté en 2000 et en 2006, après 7 ans de suivi, les résultats étaient les suivants. On dénombrait 167 cas de cancer du col de l'utérus et 38 décès dus au cancer du col dans le groupe IVA et 158 cas de cancer du col de l'utérus et 92 décès dans le groupe TRA. Ces résultats ont permis de montrer, à l'aide d'une analyse statistique appropriée pour un plan d'études randomisé par groupe, que l'incidence du cancer du col de l'utérus a baissé de 25% 6 ans après le début du dépistage et que les décès dus au cancer du col de l'utérus ont baissé de 35%. Ces deux résultats étaient statistiquement significatifs. Nous avons ensuite effectué une analyse par groupe d'âge qui a révélé une baisse de 38% de l'incidence et une baisse d'environ 66% de la mortalité du cancer du col de l'utérus chez les femmes âgées de 30 à 39 ans. En revanche, pour les femmes âgées de 40 à 49 ans et de 50 à 59 ans, la baisse de l'incidence et de la mortalité du cancer du col de l'utérus n'était pas statistiquement significative. Ces résultats sont tout à fait plausibles. Le dépistage par inspection visuelle a ses limites. Il est efficace seulement si la zone de remaniement est visible, c'est-à-dire s'il est possible de voir la jonction pavimento-cylindrique dans son ensemble. Lorsque la zone de remaniement se déplace dans le canal, le dépistage visuel est moins efficace. Les femmes ménopausées ayant la quarantaine ou la cinquantaine présentent souvent une régression de la zone de remaniement dans le canal. L'étude ne comportait pas un grand nombre de femmes âgées de 50 à 59 ans, ce qui la rend moins pertinente. Mais dans l'ensemble, l'étude montre que les infirmières formées de façon appropriée sont capables de pratiquer un dépistage visuel précis ainsi que des colposcopies et des cryothérapies efficaces. L'étude montre également que l'on peut réduire l'incidence et la mortalité du cancer du col de l'utérus grâce à un dépistage effectué en une fois. Ces courbes montrent l'incidence cumulée du cancer dans son ensemble, l'incidence cumulée du cancer de stade 1B est supérieure ou de stade 2 est supérieure et la mortalité cumulée dans le groupe d'intervention et le groupe témoin dans cet essai randomisé. Comme vous pouvez le voir, les deux courbes se séparent de plus en plus au fur et à mesure que le temps de suivi passe, ce qui est très intéressant et significatif. En fait, le changement d'incidence apparaît bien avant celui de la mortalité. La troisième étude dont je vais parler est un essai randomisé effectué dans l'ouest de l'Inde. Cette étude a été menée en collaboration avec le Tata Memorial Center, le Nargis Dutt Memorial Center Hospital de Barshi, en Inde, et financée par l'Alliance pour la prévention du cancer du col de l'utérus, ACCP, avec le soutien de la fondation Bill et Melinda Gates. Il s'agit d'un essai randomisé ayant pour but d'évaluer trois méthodes de dépistage, l'inspection visuelle après application d'acide acétique, le test VPH et la cytologie conventionnelle. Ces dépistages ont été effectués en une seule fois par des infirmières sages-femmes auxiliaires. Les objectifs principaux de cet essai étaient de comparer la baisse de l'incidence et de la mortalité du cancer du col de l'utérus, associé à un dépistage effectué en une seule fois par inspection visuelle après application d'acide acétique, cytologie ou test VPH à celle du groupe témoin, c'est-à-dire les femmes traitées de façon conventionnelle et n'ayant subi aucun test de dépistage, et d'évaluer le rapport coût-efficacité de ces trois méthodes. Cette étude comprenait environ 130 000 femmes âgées de 30 à 59 ans. Il s'agissait encore d'un essai randomisé par groupe, et ces groupes étaient au nombre de 52. 13 groupes ont été randomisés dans chacun des 4 groupes, témoins, test VPH, cytologie et IVA, et le groupe témoin comportait 31 000 femmes, le groupe du test VPH 34 000 femmes, le groupe du frottis cervico-vaginal 32 000 femmes et le groupe de l'IVA presque 34 000 femmes. Cette étude a commencé en 2000 et le dépistage a pris fin en 2003. Le test IVA et le recueil de cellules du col de l'utérus nécessaires à la cytologie et au test VPH ont été pratiqués par des infirmières sages-femmes auxiliaires. Toutefois, chez les femmes dont le dépistage était positif, la colposcopie a été pratiquée par des médecins généralistes et des gynécologues expérimentés. La cryothérapie a été pratiquée par des infirmières et la RAD par des médecins généralistes et des gynécologues. Et dans les cas où cela était possible, on a utilisé le dépistage effectué en une seule fois, surtout dans le groupe de l'IVA. Les femmes dont l'IVA était positive ont subi une colposcopie immédiate dans les mêmes locaux. Après un suivi de 8 ans, débuté en 2000, voici les résultats. Ils montrent en fait une baisse significative de la mortalité du cancer du col de l'utérus, associée au test VPH, et de l'incidence des cancers avancés du col de l'utérus dans ce groupe. La baisse de la mortalité dans le groupe de la cytologie et dans le groupe de l'IVA n'est pas encore statistiquement significative dans cette étude. Ces courbes montrent l'incidence et la mortalité cumulée dans les différents groupes par rapport aux années de suivi. Comme vous pouvez le voir, le taux d'incidence cumulé des cancers du col de l'utérus de stade 2 ou supérieur et la mortalité du cancer du col de l'utérus diminuent avec les années de suivi comparé au groupe témoin. Mais la baisse dans les groupes de l'IVA et de la cytologie n'est pas encore statistiquement significative. Dans cette étude, les valeurs prédictives négatives à long terme de chaque méthode de dépistage du cancer du col de l'utérus sont particulièrement intéressantes. Le dépistage est essentiellement pratiqué pour prévenir le cancer invasif, et quand on parle des résultats d'une étude en termes de néoplasie cervicale intraépithéliale, CIN, cela crée un très vif débat à propos de la validité diagnostique des lésions CIN dans l'étude. Les anatomopathologistes ne parviennent pas à s'accorder concernant le diagnostic des lésions CIN2 et CIN3, mais cela ne remet pas en cause le diagnostic du cancer invasif. Il tue les personnes qui en sont atteintes s'il n'est pas traité de façon adéquate ou s'il est détecté à un stade trop avancé. Le suivi à long terme des femmes de notre étude, dont le dépistage est négatif, nous donne une chance exceptionnelle de pouvoir étudier l'incidence du cancer du col de l'utérus chez ces femmes. En fait, sur 24 000 femmes négatives pour le VPH, 8 ont développé un cancer du col de l'utérus. Dans les groupes de la cytologie et de l'IVA, on dénombrait respectivement 22 et 25 cas de cancer, ce qui indique que dans notre étude, si le test VPH est négatif, la valeur prédictive négative est très élevée. En fait, cette valeur prédictive négative est presque 5 fois plus élevée pour une IVA ou une cytologie négative. Nous sommes tous d'accord sur le fait que le test de l'ADN du VPH est plus sensible et très reproductible et qu'il s'agit du test de dépistage du cancer du col de l'utérus le plus objectif. Le problème est que dans son format actuel, ce test est cher, peu pratique, demande beaucoup de temps et que dans de nombreux pays aux ressources limitées, il n'est pas possible de l'utiliser. Le test VPH est certes très utile, mais le problème est que les pays en voie de développement ont besoin de tests VPH simples, rapides, abordables, acceptables et précis. Il y a 5 ans, la Fondation Bill et Melinda Gates a apporté son soutien à une initiative visant à mettre au point un test VPH abordable, précis et pouvant être utilisé dans les pays en voie de développement. Ce programme a été coordonné par le Programme de technologie appropriée en santé, PATH, en collaboration avec des partenaires industriels comme Digen et Kiagen, ainsi qu'avec des établissements d'enseignement comme l'Institut du cancer de l'Académie chinoise des sciences médicales, CICAMS, et l'un des principaux investigateurs est le Dr Yulin Kiao. Le Centre international de recherche sur le cancer en France, le Tata Memorial Center de Mumbai en Inde et le Nargis Dutt Memorial Cancer Hospital de Barshi en Inde ont aussi collaboré à ce programme. Les investigateurs principaux sont le Dr Kiskar et le Dr Nene qui ont permis de mettre au point et de valider un test VPH convenant et l'utilisation dans les pays en voie de développement. Un autre enjeu de cette étude a été de mettre au point et de valider un nouveau test VPH, le test CARE-HPV. Ce test est rapide et les résultats sont disponibles dans les 3 heures. Il est beaucoup plus simple que le test Hybrid Capture 2, qui existe déjà, et son utilisation peut être rapidement enseignée aux techniciens, aux infirmières et aux autres prestataires de santé. On peut donc garder les femmes pendant 2h30 en attendant les résultats et procéder ensuite au diagnostic et au traitement éventuel. Nous espérons que ce test coûtera moins de 5$. Les premiers résultats de ce test ont été publiés récemment en Chine et sa précision dans la détection des lésions de stade CIN2 ou supérieur a notamment été évaluée. Voici le matériel nécessaire au test CARE-HPV. Ce graphique montre la concordance entre le test Hybrid Capture 2 et le nouveau test CARE-HPV. Cette concordance est en fait excellente, comme l'indique la valeur kappa de 0,9. De récentes études chinoises indiquent que le test CARE-HPV a une sensibilité supérieure à celle de l'inspection visuelle après application d'acide acétique et a la même sensibilité que la cytologie en milieu liquide et le test VPH dans la détection des lésions de stade CIN2 ou supérieur. C'est un moment vraiment passionnant, étant donné qu'il y a 10 ans, nous ne savions même pas comment organiser des programmes de dépistage du cancer du col de l'utérus dans les pays en voie de développement. Nous disposons à présent d'une énorme quantité d'informations à propos des tests de dépistage. Cela permet de décider du test à utiliser et d'avoir un aperçu des coûts et des résultats. Les scientifiques, les experts de santé publique et les décideurs disposent à présent d'un large choix. Le principe de base est que, quel que soit le test utilisé, inspection visuelle, test VPH ou cytologie, la formation des prestataires revêt une importance considérable. L'assurance qualité ainsi que le diagnostic, le traitement et le suivi des femmes dont le dépistage est positif sont eux aussi très importants. L'ensemble des données doit être enregistré dans un système d'information conçu de manière adéquate pour que l'on puisse être en mesure de surveiller et d'évaluer les programmes de façon appropriée. Mettre en relation les tests, les diagnostics et les traitements en utilisant un système d'information permettant de surveiller et d'évaluer ces données est la clé de la réussite des programmes de dépistage dans les pays en voie de développement. Plusieurs études randomisées ont apporté de nombreuses preuves en faveur des nouvelles méthodes de dépistage, comme l'inspection visuelle et le test d'ADN du VPH, et des nouvelles approches programmatiques, comme le dépistage effectué en une seule fois, ou le regroupement du dépistage, du diagnostic et du traitement, ou seulement du dépistage et du traitement sur une séance. Selon ces études, ces méthodes sont sans danger, peuvent être bien acceptées par les femmes et réduire l'incidence des néoplasies cervicales. Je pense qu'il est donc temps d'agir. Dans le contexte de ces études, le groupe dépistage du CIRC a mis au point des matériaux de formation expliquant les techniques suivantes. Colposcopie, dépistage visuel, histologie, cytologie, test VPH, cryothérapie, résection à lance diathermique, etc. Ils existent en plusieurs langues sous forme de CD-ROM ou de manuels imprimés qui peuvent être téléchargés à partir de notre site internet screening.iarc.fr. L'ACCP et leurs 5 partenaires, avec le soutien de la Fondation Bill et Melinda Gates, ont conçu un excellent manuel sur l'organisation et la gestion des programmes de dépistage du cancer du col de l'utérus, intitulé « Planification et mise en œuvre des programmes de prévention et de lutte contre le cancer du col ». L'Organisation mondiale de la santé a édité un guide sur la lutte du cancer du col de l'utérus pour les prestataires de soins de santé indiquant comment bien utiliser les différentes méthodes de dépistage pour traiter les femmes atteintes de néoplasie cervicale. Il s'agit du guide des pratiques essentielles. Il existe donc beaucoup de ressources disponibles pour faire avancer la prévention du cancer du col de l'utérus dans les pays en voie de développement. Merci de votre